personnes qui ont été internées et qui ont connu l'hospitalisation extérieure, ah, non pas. Oui. Parce que maintenant, avec le durchissement des pratiques, le fichier PsyWeb, le croisement de ces fichiers sécuritaires sur l'hospitalisation sans consentement avec le fichier terrorisme, oui. les personnes qui n'ont pas connu l'hospitalisation psychiatrique ne sont pas concernées par ce regard complètement hygiéniste, sécuritaire et policier. Qui pèse sur le public psychiatrique, pas directement concerné du moins. Donc ça permet de serrer. Bon voilà, d'éviter. Il y a aussi d'autres travers. On verra parce que tout ça, ça va être en discussion. On commence les discussions le 28.
C'est ça.
Voilà. Et c'est là où ça risque d'être intéressant parce que bon, on va pas être nombreux, mais. Donc, alors, un centre de formation rétablissement Coffort à Paris, c'est-à-dire, alors, lors d'une conférence débat que nous avions organisée le 25 février 2023, le docteur Tinlan nous avait exposé dans quelles conditions avait été initié à Marseille sur un appel à projet un tel centre en 2017. Un Coffort a été développé à Lille en 2018. À Paris, rien de tel. La première initiative capotée sur un conflit en vue d'un poste futur de salarié coordinateur, alors qu'il n'y avait rien. Nous avons considéré que ce conflit, c'est pas notre affaire. On n'est pas là pour se bagarrer pour une subvention à intervenir. On constate qu'il y a une absence de cette prestation à Paris. On constate que la psychiatrie parisienne est tenue dans le sens institutionnel dominant, que ses dirigeants aux dernières nouvelles ne voient pas d'un œil serein de quelconques initiatives prises dans le sens d'une autonomie ou pire encore d'une autogestion. Un féodalisme qui est aussi un paternalisme et un hygiénisme déplorable règne en Île-de-France en matière psychiatrique. Voir par exemple ce conflit très conséquent qui a eu cours en 2020-2021 à l'EPSM Roger Prévost de Moissel, Val d'Oise, au solde duquel le docteur Mathieu Bellassem, psychiatre, a été relevé de sa fonction de chef de pôle. Au demeurant, le 7 juin courant, Mathieu Bellassem s'inscrit tout à fait dans un courant de la psychothérapie institutionnelle tenant de la psychanalyse. Et pourtant, il nous a défendu. Bon, donc vous voyez, parce qu'il s'agit de coupler la question des droits des patients, des droits judiciaires, des droits effectifs des patients, au droit à la psychothérapie institutionnelle, donc à des pratiques qui soient de l'institution, des pratiques où on peut, si l'on veut, creuser en profondeur. Au demeurant, le 7 juin courant, le défenseur des droits, dans une décision détaillée de près de 20 feuillets, a reconnu à ce psychiatre courageux la qualité officielle de lanceur d'alerte au sens de la législation que la France a dû adopter sur les lanceurs d'alerte en 2021. Nous reviendrons sur cette décision très importante du défenseur des droits, puisque c'est la première fois que cette autorité administrative indépendante reconnaît officiellement à un professionnel de la psychiatrie une telle qualité. Donc, cette vidéo détaillée que les acteurs du Coffort Marseille ont réalisée en juin 2017, une vidéo d'une heure pour présenter le Coffort Marseille, qui est vraiment très bien faite. Hein, c'est vraiment trois personnes qui ont connu la psychiatrie, hein, Yves Bancelin, Caroline Gianni-Madi et Anakin Pochon, je crois qu'il faut... prononcer comme cela. Donc, pour notre initiative, nous, on lève cette impasse d'un feu vert préalable de l'ARS d'Île-de-France et d'un énième conflit sur le poste salarié de coordinateur sur une subvention publique. On sait que nombre d'initiatives en dehors des clous institutionnels en santé mentale en Île-de-France, ainsi que les protestations des personnes concernées, ont été cassées et discréditées, leurs porteurs salis et marginalisés depuis un quart de siècle. Nous entendons en conséquence démarrer un Coffort, le faire fonctionner à Paris hors cadre institutionnel, autant que faire se peut, au bout de quelques mois de pratique, si ça marche, faire un bilan, proposer à l'ARS Île-de-France et à d'autres entités de financer cette prestation de sorte qu'elle puisse se développer. La clé, c'est cela, c'est des personnes qui s'autonomisent dans une logique de déchronicisation, cessent de peser à l'inertie sur les fonds de la sécurité sociale et peuvent se réinsérer ou participer à générer de nouvelles habiletés. Nous, ce qu'on avait vu au long des conf-débats qu'on avait faites, c'est que la problématique des nouveaux métiers émergents, qu'il s'agisse des médiateurs de santé pair ou de la pair aidance ou de l'expertise expérientielle, ça n'en reste pas moins. Alors, les médiateurs de santé pair, vous êtes embauchés sur un site, vous avez un salaire, vous avez un poste et à mi-temps, vous avez une formation. Donc, vous avez d'ores et déjà un statut, c'est déjà ça. Tandis que la pair aidance, non, vous rentrez dans une formation, vous obtenez le DU, et là, vous postulez. Et la formation est payante. La formation est payante. Et donc, soit vous pouvez obtenir un financement par Pôle emploi, soit vous irez de votre propre poche. Et on a vu des trucs scandaleux se développer. Sur Lyon 2, j'ai eu vent que des personnes, des jeunes femmes, ont intégré cette formation payante. On leur a dit qu'il allait y avoir une aide pour qu'elles obtiennent un paiement, des fonds, le prix de cette formation par Pôle emploi. On les a pas aidées. Et comme elles ouvraient un peu, ils disaient des choses, elles n'étaient pas tout à fait dans le rail de la compliance, etc., leur stage n'a même pas été validé.
D'accord.
Bon, donc on voit là une source habituelle dans les formations, d'escroquerie aux formations. Ça tourne carrément à ce qui peut devenir, ou ce qui est potentiellement une escroquerie à la formation. Bien. Et en plus, on leur fait miroiter qu'on va leur faciliter telle embauche, et on leur sort, à titre d'humiliation en cours de formation, que si, alors c'est des jeunes gens, que si ces jeunes gens n'arrivent pas à se débrouiller par elles-mêmes ou par eux-mêmes, alors c'est qu'ils sont encore dépendants, infantiles, psychotiques, etc., et que le rétablissement, c'est pas pour eux. Non, vraiment, c'est très douteux. Avec là-dedans, alors on trouve là-dedans, dans ce nouveau fromage, beaucoup de gens qui sont stagiaires là-dedans, qui en formation, qui n'ont mais tout simplement jamais connu la psychiatrie. C'est simplement un nouveau secteur. Et là, on tombe sur des gens totalement intéressés à un circuit, qui vont être des futurs copeaux, des espèces de bras armés d'une répression complètement aveugle et complètement infantile, dans lesquels ces gens-là sont susceptibles de faire n'importe quoi et auront tendance à considérer mon genre de personnes ou nos genres de personnes comme des gêneurs, des troublions, des individus qui ne comprennent pas qu'on soit là pour se faire un peu de thunes et qui nous combattront. Et qui participeront à faire taire et à camisoler et à combattre toute contestation des horreurs institutionnelles. Bon, donc la chose est quand même assez grave. D'autre part, on note là-dedans, moi, c'est les échos que j'ai eus dans ces formations pour la pérédance, des gens qui sont actuellement très graves. Qui sont actuellement, par exemple, en cours d'addiction aux stupéfiants. Ils sont en cours d'addiction aux stupéfiants et qui sont pris là-dedans. Bien. Donc, alors, comme dans ce circuit, on passe très fréquemment des dealers aux prescripteurs, ça pose quelques problèmes.
Les laboratoires sont aussi impliqués dans la consommation récréative des drogues.
Oui, ça va même plus loin. D'après une étude de géopolitique des drogues en audio que j'ai placée sur ma page Facebook, d'ailleurs, qui date de 2023, d'un géopolitiste connu, aux USA, où les dérivés des opiacés, maintenant, ça fait des ravages, notamment à travers le fentanyl qui arrive en France, qui arrive en Europe, on parle de centaines de milliers de morts par overdose. À la base, l'utilisation déviante des opiacés avait été favorisée par les laboratoires parce que c'était une ouverture de marché. Or, les firmes pharmaceutiques sont d'un cynisme total. Et d'autre part, pour la France comme pour les pays avancés, depuis l'ouverture des institutions, en France et les années 70, a été constitué des ghettos. On a recruté, on a ouvert une espèce de trappe à exclusion sous couvert de handicap et de maladie dans laquelle on a envoyé des millions de personnes. À l'heure actuelle, d'après une récente publication de Sylvie Vivorca, psychiatre traité, qui est la femme que je sache d'Alain Gesmard, le leader 68, qui a été psychiatre hospitalière et psychiatre privé, et qui a fait un récent ouvrage sur sa carrière de psychiatre. Elle a été également adjointe au maire de Paris. Elle a dirigé une mission interne à la mairie de Paris sur l'infirmerie psychiatrique, au sein de laquelle, en 2017-2018, nous avons délivré un rapport qui a intéressé cette problématique, d'ailleurs, de la normalisation du statut de l'infirmerie psychiatrique. Elle dit que d'après des chiffres qu'elle sort des données publiques de la Sécurité sociale, entre les personnes prises en charge en institution psychiatrique ou en dehors, et les personnes prenant des traitements psychiatriques, au niveau des comptes de la Sécurité sociale, à l'heure actuelle, en 8,4 millions de personnes sont concernées à un titre ou à un autre par la psychiatrie, soit par une prise en charge, soit par des traitements psychiatriques. Or, 8,4 millions de personnes sur 68 millions de personnes, c'est 12% de la population. 12%. Ça veut dire que le marché qui s'est ouvert de la psychiatrisation de masse à partir de l'ouverture des institutions, quand Michel Foucault faisait ses conférences au Collège de France, c'est un milieu population générale. C'est un milieu où l'on part des années 70 à quelques centaines de milliers de personnes, à maintenant un nombre de personnes absolument colossal. Et on sait, vu les ravages du marché des stupéfiants, des problèmes d'alcoolisme également, que dans ce pays, l'on passe quand même des dealers aux prescripteurs. Bien. Donc il y a là un véritable problème. Donc alors, dans ces questions, alors revenons à la problématique Cofort. Un Cofort, pourquoi faire ? Un Cofort, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu d'autosupport, donc de self-help, où des personnes ayant connu ou connaissant le suivi psychiatrique, épaulées par des professionnels qui acceptent d'être coordinateurs, d'être personnes ressources, en quelque sorte s'auto-forment et forment des tierces personnes dans le sens de l'autonomie. Donc, alors, c'est là-dessus ce qu'ils avaient initié, c'était les modules du Cofort Marseille.
Effectivement. Donc, il y avait une dizaine de modules, un peu moins.
Quatre à cinq.
Quatre ou cinq, oui. Droit, PER, directive anticipée, WRAP, c'est-à-dire que c'est un acronyme anglo-saxon qui signifie plan d'action individualisé de rétablissement. Donc ça, c'est le deuxième. Alors, c'est tout ça à la fois, PER, directive anticipée et WRAP. Il y a aussi le module bien-être et enfin le module faire avec. Mmh. Et tu me disais que c'était que ce module faire avec était quelque chose de très important.
Oui, oui. Alors c'est là ce qu'on a vu, le faire avec, finalement, c'est ce qui avait été développé assez rapidement à partir des années 90 pour des atteintes psychiatriques nobles. Bon, c'est pas les troubles psychotiques les plus sévères, c'est la dépression. Mmh. Bon, la dépression et troubles bipolaires avec autour de docteur le professeur Ollier, Jean-Pierre Ollier, académicien décédé, qui avait fait quand même pas mal de choses autour des laboratoires de Sainte-Anne et du centre de sismothérapie de Sainte-Anne. Ça peut dire, lui et ses collègues, ils s'y connaissaient pour envoyer aux électrochocs. Donc, il était très partisan du développement de mouvements de malades, mouvements pathologie par pathologie.
D'accord.
Avec cette problématique qu'on a connue à la fin des années 90, c'est la même chose sur le terrain du handicap, le nationalisme de la maladie. On se revendique de telles maladies et l'on défend le drapeau. Nous, les bipolaires, oui, nous, les dépressifs, les schizo, nous, les maniaco-dépressifs type 1, oui. Nous, les diabétiques type 2. Avec ou quand on vient dans les colloques et conférences, on n'a pas l'identité madame, monsieur, on est le psychotique truc, l'Asperger machin. Un jour, j'ai fini par dire à une personne... « Ah bon, vous êtes Asperger, vous n'êtes pas française des fois aussi ?» Bon, et donc, en fait, c'est là que ça s'est développé, maladie par maladie. Et c'était alors très dans le sens, dans les colloques et les conférences de France Dépression, il y avait la publicité pour les laboratoires, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et ça, c'était autorisé. Donc, en fait, le faire avec, alors, on a vu une autre... La France a été très retardataire pour développer le réseau des entendeurs de voix, qui a été développé dans les pays anglo-saxons dès les années 90, sur les travaux menés par le professeur Marcus Rom, du psychiatre anthropologue aux Pays-Bas, qui avait délivré une étude en population réelle, où il avait dévoilé, que beaucoup de gens avaient une entente de poids, mais tout ça, ils se débrouillaient avec l'échoïsation, les rituels, même le fait quand on est gosse, on se chante des chansons, voilà, et que c'est à partir de là, un peu, on monte un peu cet univers qui peut quand même vous protéger des agressions extérieures. Que beaucoup de gens, tu vois, on le voit, ça dépend comment on a appris, comment on s'est appris soi-même à fonctionner avec du texte, avec l'environnement, avec les médias. Je sais que j'avais fait un test quand j'étais en fin d'études sur comment on lisait. Avez-vous une lecture purement visuelle ou une lecture acoustique ou une lecture acoustico-visuelle? Bon, moi j'ai une lecture plutôt acoustico-visuelle. Je développe plutôt une lecture son.
D'accord.
Plutôt une lecture son. D'autres, c'est une lecture purement visuelle. Bon, ça, ouais. Ça dépend. Ça fait partie des particularités. Et donc, en France, ça s'est développé seulement en 2011. Puis ils ont coopté. Il y a eu Vincent Demassier qui a été coopté par le CCEMS, un peu comme ces figures un peu tutélaires qu'on met en avant. Malheureusement, à partir de là, il y a un phénomène de, comment dire, de notabilisation qui, éventuellement, peut être handicapant. Voilà. Bon. Par ailleurs, ce n'est pas si développé que ça. Il y a des établissements qui font état qu'il y a une présence d'un réseau d'entendeurs de voix, mais qui n'a pas de succès, qui n'est pas spécialement fréquenté, qui n'entraîne pas grand-chose. Évidemment, parce qu'il y a un problème par rapport à la chronicité et par rapport au fait que c'est à l'intérieur, dans les files actives elles-mêmes, les gens qui sont dans les files actives portent à eux-mêmes et aux autres patients, et puis alors pour beaucoup également à celles et ceux qui prennent des initiatives et des initiatives autorisées, par ailleurs, un regard hyper-ségrégationniste. La discrimination à un malade fonctionne énormément à l'intérieur même des défis actifs. Et quelque part, c'en est même au point que pour mobiliser des personnes psychiatrisées par elles-mêmes, en France, on en est à ce que, bon, maintenant la parole s'est libérée, ça va, il y a des leaders qui apparaissent, des leaders qui s'excluent les uns les autres, hein, qui se font la guerre les uns les autres. Mais des fois, les polémiques sont assez saines, parfois peut-être qu'il vaut mieux être étanche pour développer des initiatives. Bon, peut-être. Mais on en est, que je sache, au point qu'une initiative étant donnée d'autonomisation de personnes psychiatrisées, il faut qu'on mette en avant des professionnels. S'il n'y a pas de professionnels en avant, on risque que ce soit le désert. Donc, en sorte, pour que les personnes elles-mêmes bougent, il faut qu'elles soient autorisées à bouger. Pour qu'elles soient autorisées à bouger, il faut que des professionnels s'autorisent eux-mêmes à bouger, tu vois, pas simple.
Alors oui, et donc on apprend des choses quand on devient étudiant dans le cadre de la formation au rétablissement du COFOR.
Alors oui, alors se pose. Alors à Marseille, ils ont eu de tels fonds qu'ils ont pu se permettre de financer le fait que des personnes formées viennent suivre des formations. C'est-à-dire que ces personnes formées pouvaient recevoir un petit pécule. Voilà. Bon, nous, on n'est pas là. Alors, il m'a été objecté au lancement, quand on a voulu en 2020, « Ah oui, mais s'il n'y a pas de thune à la clé, vous n'intéresserez personne. Mm-hmm. » Moi, je veux dire, on a la quintessence du sens de l'intéressement là-dedans. C'en est vraiment à crever de rire ou à chialer ou à craquer en pleurant.
Donc, est-ce que le COFOR permet à ces étudiants de devenir formateurs eux-mêmes ?
Évidemment. Oui. Évidemment. Le principe, c'est que soit une expertise que l'on accumule en cours de prise en charge, parce qu'on doit se débrouiller avec la maladie, parce qu'on doit se débrouiller avec l'environnement, parce qu'on est obligé de chercher des issues dans tel et tel canot, qu'on doit creuser tel et tel test, de se dire est-ce que j'ai droit à ceci, est-ce que j'ai droit à cela, est-ce que j'ai droit à autre chose qu'à les ramper pour chipper un peu de compassion. Parce que la carrière d'un malade en psychiatrie, c'est ça, hein, c'est un rampage incessant avec un rictus compassionnel de la professionnelle du coin. Bon. Qui vous a plus ou moins la bonne et qui va avoir pitié de vous. Et vous n'aurez une prise en charge que si vous faites pitié. Quelque part, c'est un peu ça, hein, je veux dire. Des personnes qui ont été confrontées à cela auront accumulé une certaine expertise, pourront développer cette expertise, pourront en faire part et pourront, en échange de savoir, acquérir un certain savoir. Ce que moi, je fais, je viens du tas, hein, et donc répercuter ce savoir. Et parfois, je sais que ça ne me dérange pas, moi, personnellement, d'avoir affaire à quelqu'un qui en a pris plein la figure dans la vie, puisque c'est aussi mon cas, et qui va me délivrer un savoir en disant clairement, j'en ai pris plein la figure dans ma vie. Ça ne me dérange pas. Et comme ça, au moins, voilà. Tu vois. Donc oui, c'est, comment dire, un échange de pair à pair, avec, à mon sens, le fait qu'on doit lever cette impasse qui a été très problématique à Marseille comme à Lille, hein, je crois, de l'horizontalité. Croire que l'on peut tenir de telles initiatives dans une démocratie directe en horizontalité ouverte comme ça, moi, non. C'est juste pas possible. Mais ça, on en discutera. On a commencé à en discuter. Moi, je pense que, vu le milieu dans lequel on est, non, les personnes qui tiennent doivent être garanties par un texte. Il faudra monter d'abord un texte implicite, un texte, enfin, bon dire.
Un peu comme une charte.
Oui, une charte de fonctionnement, donc des statuts, ouais. Des statuts, une charte. C'est-à-dire, il faudra monter en fait un texte non déclaré dans un premier temps. Hein. On peut très bien fonctionner en groupe de fait avant de déclarer une structure associative. Hein. On peut très bien fonctionner comme ça. Donc, qui quand même fasse que les personnes en charge puissent tenir à distance des gens qui sont simples demandeurs. Hein. Bon, d'une, et de deux, que les personnes en charge soient limitées dans des éventuels abus de pouvoir, évidemment. Donc, parce que moi, je ne crois pas à l'horizontalité dans les milieux pareils, pour une raison simple, c'est que l'horizontalité, c'est ce qu'on a vu à la base au groupe Information Asile qui avait été au début du fait qu'en 91, Philippe en avait pris plein la figure, avait dû démissionner, alors c'était lui qui faisait les dossiers, et c'est ce qu'on a vu également au fil retrouvé FNAPSI, hein ?
Oui.
Hein ? Mm-hmm. En 2000,
ah oui, c'est
un afflux de nouveaux adhérents, et plaf, ça a cassé parce que les personnes qui tenaient n'avaient pas la barre. Ils n'avaient pas la barre, et d'autre part, et par ailleurs, les AG sont quand même le lieu où la démocratie associative doit s'exprimer, mais bon.
Mais en même temps, le recrutement, en fait, se fait quand même sur un minimum de motivation des personnes qui entrent.
C'est ça. Alors, bon, moi, je suis pour. Alors, l'expérience que j'en ai, qui est quand même assez lourde, me fait dire que l'on peut fonctionner sur une démocratie interne effective à condition de filtrer les entrées. Parce que si les entrées ne sont pas filtrées, quand même, dans un milieu où les gens viennent de la toxicomanie, viennent de détraquements relationnels extrêmement importants, d'une indignité personnelle qu'ils répercutent sur quiconque autour d'eux. Hein ? Une indignité personnelle que ces personnes répercutent sur quiconque autour d'elles. On ne peut pas fonctionner.
Eh bien, oui, c'est donc ce qui sera discuté donc samedi 20... Ah, j'oublie toujours la date.
28
septembre de prochain, bon, à la GK, 77
oui.
Rue de Charonne, dimanche, donc.
À Paris samedi. 11e, samedi, Paris samedi. 11e. Voilà. Donc, je voudrais faire une incise sur la période électorale que nous avons passée.
D'accord.
Nous sommes en France, pour celles et ceux que la politique s'intéresse. Hein. Moi, ça m'intéresse. J'essaye d'être électeur, d'y comprendre quelque chose, quoi qu'en étant un malade mental, machin, truc, bidule. Mais je fais cet effort. Or, on a traversé une drôle de période. Et j'aimerais remarquer et faire remarquer à Denis et aux personnes qui nous écoutent que je n'ai jamais... Moi, je vote depuis l'âge de 26 ans. Hein, depuis la première élection à laquelle j'ai participé, c'était en 79, la première élection européenne, au Parlement européen. Je n'ai jamais assisté à une période électorale où les hommes et les femmes politiques, les personnes politiques, se traitent réciproquement de fous, de cinglés, de malades, à qui manque une case, et que le peuple français, notamment François Bayrou, je le cite, par rapport à la dissolution, le président de la République, il lui manque une case, le peuple français aussi.
Ah oui, il y a un florilège de déclarations.
Macron a été déclaré comme étant un fou immature, enfermé dans sa paranoïa, irresponsable. Alors là, c'est Mediapart. Bien. L'irresponsable Macron. Éric Ciotti, alors là, on a vu le staff des Républicains, alors qu'il il disait, les Républicains, c'est moi qui suis le président. Ils l'ont même pas déposé légalement, ils n'ont pas pu, ils n'avaient pas les statuts pour. Il s'est enfermé dans le siège des Républicains. Geneva, la secrétaire générale, a parlé de renvoyer le SAMU pour déloger le forcené Ciotti. J'étais mort de rire. J'étais mais mort de rire. Donc après, ça n'a pas arrêté. Et à telle enseigne, la dernière fois, j'ai vu ma médecin généraliste, une jeune femme, très gauche, machin, très bien, vraiment bien. Je lui ai dit, enfin, docteur, écoutez, voyez, regardez, ils sont traités mutuellement les uns de fous, de folles, d'immatures. Que deviennent les vrais malades mentaux dans cette affaire? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils se sont, mais littéralement, traités de cinglés les uns les autres. C'est effarant. Moi, au contraire, alors au contraire du public de gauche, moi, j'ai ma réaction personnelle au soir de la dissolution a été de dire ben bravo la gauche, vous la gauche d'appareil, la gauche du galon, la gauche de salon. Regardez ce que vous provoquez. Regardez. Et d'autre part, à finir par dire sur un forum de Mediapart. Écoutez, la gauche à l'heure actuelle, les études sociologiques le démontrent, le recrutement des électeurs de gauche n'est pas spécialement populaire. Hein. C'est quand même diplômé déclassé, mais bon, voilà. C'est-à-dire que vous êtes de gauche valable à Bac plus 10, sans ça vous n'existez pas. Et j'ai précisé, moi personnellement, en tant que septuagénaire, j'ai toujours vécu avec la ségrégation en pleine figure, sauf quelques années arrachées de haute lutte. Et encore, on m'a fait savoir que, bon, moi qui marchais du menu peuple, voilà, relégué dans les marges, fallait que j'évacue pour les diplômés saillants. Des diplômés saillants. Mais attendez, c'est vraiment très grave de voir cela. Donc, en tout cas, moi, je pense que la crise politique et de régime qu'on vit à l'heure actuelle est vraiment à suivre de façon attentive parce qu'on bascule d'une société à une autre. De bon, hein. On bascule. Ouais, on est vraiment dans une période intermédiaire avec un changement de société, un changement de régime. Certains analystes parlent de fin d'une parenthèse de démocratie représentative occidentale qui est en train de se clore. Yeah.
Je ne sais pas comment commencer, comment pourrais-je identifier ce sentiment d'immensité? Puis-je vraiment me sentir fier? Je suis plutôt sincère, non? Et j'ai fait le serment que je serai un servant, observant les vivants. Si t'as un don, certain, si t'as un fond, fervent, c'est certain. Tu vas couper toutes ces langues de serpent, et clairement, personne ne pourra faire de toi insultant, insultant les gens qui pensent que t'es qu'un simple consultant. Et t'entends ma vie qui te tente, posé dans les tentants. Rêve depuis longtemps, ouais, je sais que c'est tentant, mais pour moi tout a un sens, sans prétention, coalescence que j'ai depuis l'adolescence, sans le sang. On voit que ça depuis tout petit, toujours blessé comme mon titi. Et on est là, on se multiplie, on reste dans notre mesquinerie. Rime, rime, rime. À quoi ça rime, rime? À quoi ça rime, trim? Pour rester digne, dis-moi le sims, mime. Ce qu'on te dit de faire fait mine, d'avoir bonne mine. Sinon je te bim, bim la tête. Sinon je te bim, bim la tête. À quoi ça rime, trim, pour rester digne? Dis-moi le sims, mime, ce qu'on te dit de faire fait mine, d'avoir bonne mine. Sinon je te bim, bim la tête. Sinon je te bim, bim la tête.
À quoi ça rime? Tu l'as dit, à quoi ça rime, à quoi rime nos textes, à quoi rime la vie, un putain de bordel avec un nom, la merde, comme perdre ses textes à 5 jours de posée. La haine, odieux, la rage dans la peau, nique la mémoire des anciens, j'ai tout, c'est faux, regarde dans le creux de ma main, taf de merde, pas de pote, pas de soutien, tu veux savoir ce que vaut ma vie? rien, à quoi ça rime? Que dalle, mais faut que je fasse mon couplet, que je fasse l'effet d'une balle qui dans tes poumons vient se loger. Je t'empêche de penser, respirer comme la France est maurienne. À quoi rime tous ces fachos qui comme de rien se promènent? À quoi ça rime, putain? Être entouré d'abrutis, entouré d'accro du faux, des gens juste débiles, sacrifier de son temps pour être dans le mood de la société, perdre son temps à bosser, perdre son temps à aller voter. Putain, à quoi ça rime, Julio? À quoi ça rime, ces rimes qui nous déciment le cerveau? Tout ce que je sais faire est qualifié d'artistique, donc j'ai aucun avenir aujourd'hui, je l'ai compris. Loin des streamers influenceurs qui blindent leur portefeuille vitrine, qui vendent des VPN à toute heure, victime de la France d'un quotidien en mode repeat. Je comprends rien, mec, à quoi ça rime, à quoi ça rime?
Alors, d'autre part, il y a d'autres choses. Là. Oui, alors une nouvelle durant les JO et même avant, les professionnels et les grosses associations ont signalé que des consignes étaient passées des agences régionales de santé sur plusieurs régions venant du ministère de l'Intérieur. Hein, donc c'est ministère de l'Intérieur, préfecture, ARS et puis hôpitaux pour restreindre et empêcher les sorties hors établissement des personnes en mesure de soins sur décision du représentant de l'État, des mesures en hospitalisation, des personnes en hospitalisation d'office, et pour, comment dire, reculer ou réintégrer dans les murs les personnes SDRE en programme de soins, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de troubles de personnes dites malades mentales durant les Jeux Olympiques. Et il y a eu un excellent billet de club, hein, publié, plusieurs alertes, publié par le docteur 24 juillet 2024 sur Mediapart Club, donc libre d'accès, docteur Olivier Labergère, psychiatre des hôpitaux, chef de pôle psychiatrie générale, Gonesse. La psychiatrie, nouvelle discipline olympique, devons-nous constater amèrement la résurgence New Look des dépôts de mendicité de l'ancien régime, destiné à recueillir indistinctement la misère et l'utilité sociale. Alors, durant les JO et aux prémices des JO et durant ces JO, ont été écartés et déplacés des SDF. Hein, des SDF, hein, en dehors des périmètres. Hein, bien, alors, des arrêtés préfectoraux et municipaux, donc il y a eu 12 545 personnes précaires expulsées, exfiltrées sans leur consentement de lieux de vie informels en Île-de-France. Politique discriminatoire d'invisibilisation des populations indésirables. Dans plusieurs villes situées sur le passage de la flamme olympique, des patients hospitalisés sous contrainte ont été privés de sortie par instruction préfectorale, conduisant la CGLPL à saisir par courrier le ministre de l'Intérieur le 24 juin pour atteinte aux droits fondamentaux des malades psychiatriques. Mais les préconisations de la CGL sont juste consultatives, sont pas impératives. Voilà. Et alors l'école, l'équipe mobile psychiatrie précarité de notre hôpital à Gonesse vient d'être sollicitée par notre ARS pour évaluer des personnes venant d'être mises à l'abri dans une aile d'un établissement de santé désaffecté. Sous le couvert pharisien de l'assistance, cet ordre de mission sibyllin passe délibérément sous silence qu'il s'agit en réalité de procéder au tri à l'orientation d'environ 80 SDF qui ont été évacués de Roissy et parqués sans leur consentement pour la durée des JO. Alors, je veux dire que durant les événements de 68, sur l'instruction du ministère de l'Intérieur, je ne me rappelle plus qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, je crois que c'était Perfitte, hein, je crois, les personnes qui étaient placées d'office, les permissions de sortie d'essai ont été suspendues durant les événements. Il ne s'agissait pas d'avoir des aliénés patentés qui renforcent les barricades. Oui, bonjour.
Il y a un rendez-vous.
Alors oui, j'ai lancé cette émission une demi-heure trop tôt. Alors je vous repasse la première demi-heure. Désolé.
À Paris 11e, sur le sujet création d'un cofort à Paris. Alors d'abord, les questions, qu'est-ce que c'est le cofort et pourquoi créer un cofort à Paris?
Pourquoi l'initier? Pourquoi démarrer un cofort à Paris?
Démarrer, parce que...
Alors, un cofort, qu'est-ce que c'est? Un cofort, c'est un centre de formation au rétablissement en psychiatrie santé mentale. L'écofort, c'est basé sur ce qui a été développé dans les pays anglo-saxons, les recovery colleges, autrement dit, des cercles d'autosupport à la base, hein, c'est plutôt formé sur du bénévolat à la base, et ensuite bon, sur des fonds privés plutôt que publics, destinés à des personnes connaissant ou ayant connu un parcours psychiatrique et destinés à ce que ces personnes puissent s'autonomiser, reprendre leur marque, se déchroniciser et sortir du circuit ou tout le moins être plus à l'aise par rapport à cela. La logique du rétablissement en santé mentale va contre la logique de la chronicisation. Or, en France, on a massivement connu une logique de chronicisation des patients et pas une logique d'autonomisation, de rétablissement, sortie de maladie, etc. En France, on a ce drame que l'on connaît depuis l'ouverture des établissements psychiatriques dans les années 70, dans la logique de la chronicisation ancienne, hein, dans l'intra-hospitalier. Quand vous intégrez la file active, on vous déclare, on vous décrète, on vous arrête malade mental et vous n'en sortez jamais, tout simplement jamais. C'est un circuit de chronicisation, c'est un circuit d'indignité et vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas considéré socialement comme habile à lever cette indignité. C'est justement tout le problème. Or, de nos jours en France, de façon d'ailleurs très problématique, on est depuis fort longtemps maintenant dans des politiques de désinstitutionnalisation, donc fermeture de sites, rationalisation, où les pouvoirs publics incitent artificiellement, il faut bien le dire, les patients dans les files actives, c'est ceux qui considèrent comme les bons malades d'ailleurs, à se désinstitutionnaliser et à prendre en charge, bon, sous contrôle, leur propre autonomie et celle des collègues malades. Alors, sous les augures du système français, c'est très tutoré, très méprisant, très paternaliste, très logique, comment dire, corporatisme, avec cette barrière entre les professionnels et les malades. Et donc, ce n'est que très récemment, depuis le début de l'année 2010, que des nouveaux métiers apparaissent, des nouvelles habiletés. Les médiateurs de santé pair, maintenant c'est le développement de la pair aidance, enfin les formations pour être pair aidant professionnel, l'expertise expérientielle, des laboratoires d'ailleurs de santé mentale, des laboratoires de sociologie essentiellement, hein, pour le développement de nouvelles habiletés. Le développement encore embryonnaire en France des COFOR, des centres de formation pour le rétablissement, s'inscrit dans cette logique, une logique de désinstitutionnalisation.
C'était d'abord à Marseille en 2017.
Alors, en 2017, alors justement, dans le dernier article sur le site du CRPA, avec le communiqué appelant à notre réunion afin de démarrage d'un COFOR Paris, j'ai mis une vidéo développée par les animateurs du COFOR Marseille, des personnes qui ont connu la psychiatrie, Yves Bancelin, Caroline Gianni Nadi et Anakin Pochon, une vidéo d'une heure, hein, d'ailleurs très intéressante, vraiment très bien faite, où ces trois personnes développent ce qu'est le COFOR Marseille.
On écoute cette vidéo.
Alors, pour que vous saisissiez un petit peu... En fait, l'enjeu de ce programme et le contexte dans lequel il a été créé. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de venir à ces réunions, je présente toujours un petit peu les mêmes dates, donc ça peut avoir un caractère un peu redondant, mais c'est quand même des dates assez importantes, donc j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de les retracer. En 1790, un couple historique d'un médecin et d'un patient atteint de tuberculose qui, officiellement, c'est ce qui a permis de créer une histoire autour de la médiation en santé pair. En fait, Jean-Baptiste Pucin était patient, Philippe Pinel était médecin et une fois que Jean-Baptiste Pucin fut soigné, Philippe Pinel lui a proposé de rester à l'hôpital pour travailler avec lui et il est devenu le gardien de la salle des fous à l'époque. Et donc c'est une des premières traces de collaboration patient-médecin qu'on peut répertorier. Cette date, c'est aussi le début du traitement moral puisque vous savez qu'il y a très 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 longtemps pour soigner les fous et les possédés. On pratiquait les lavements et les saignées très régulièrement. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à comprendre, à se douter que peut-être il y avait un lien entre les méandres de l'esprit, du psyché, et puis les pathologies. On fait un très très grand bond en avant, les alcooliques anonymes, qui ont, à mon sens, développé le concept du rétablissement, toujours dans l'idée que des personnes qui souffrent d'une pathologie identique peuvent s'apporter mutuellement beaucoup de choses. 1970, c'est le mouvement Recovery aux États-Unis qui est né de l'association des usagers, de personnes qui s'indignaient contre le système psychiatrique tel qu'il existait à l'époque, et aussi des soignants, et qui ont fait vraiment bouger énormément de choses dans le système psychiatrique américain. Les textes de Patricia Deegan, qui était une militante du mouvement Recovery. En France, l'épidémie du sida dans les années 80 jusqu'à 95 a permis aux premiers malades en fait, de devenir des patients experts. En 2006, les premières initiatives locales en psychiatrie, donc souvent c'était des médecins ou des chefs de service qui étaient convaincus que les anciens patients pouvaient apporter quelque chose aux personnes qu'ils étaient en train de soigner et qui ont proposé à leur public, en fait, à certaines personnes, de s'impliquer dans les suivis. En 2012, le programme médiateur de santé PER lancé par le CCOMS. Et puis 2012-2017, une explosion de programmes et d'initiatives locales. Alors j'en ai cité quelques-unes, la liste est non exhaustive, mais Totem sur le logement, le chez-soi d'abord, Ulysse en intervention d'urgence, Mars, l'université des patients à Grenoble, le DESU, Working First Stress, tout ça pour juste vous faire comprendre qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ces 5-10 dernières années à ce niveau-là. Et puis, j'aimerais ajouter que jusqu'ici, ces programmes et toutes ces initiatives, en fait, ont pu exister parce qu'elles avaient été la volonté de soignants ou de personnes qui avaient, on va dire, le bras suffisamment long pour pouvoir lancer ces initiatives. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, où le mouvement est parti vraiment des usagers et des personnes qui étaient directement concernées par la pathologie.
Oui, alors petit commentaire par rapport à ça, quand même, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été sous l'impulsion de personnes concernées. Il y a eu des rassemblements résistés à la psychiatrie et des choses informelles qui sont l'initiative de personnes concernées, mais effectivement qui n'ont pas eu le bras assez long pour pouvoir avoir exercé leur influence.
C'est là que ce concept du COFOR, il est très intéressant parce qu'on le verra, on aura peut-être le temps d'en discuter un petit peu plus tard, mais il est construit uniquement avec des personnes qui sont concernées, en tout cas pour l'instant, par la maladie. Les principaux acteurs de ce programme, l'association Solidarité Réhabilitation, la PHM qui devait être porteur du projet, le groupe projet qui est un petit peu l'essence de ce programme COFOR, puisque c'est à partir de là que toutes les décisions et toutes les orientations vont être prises. Les focus group, on verra ce que c'est. L'ARS PACA qui a mis les fonds sur la table pour que le projet puisse être créé par l'intermédiaire de Solidarité Réhabilitation. Et l'IRTS qui va permettre à ce COFOR de bénéficier d'ordinateurs, de locaux, de différents matériels et puis surtout d'un lieu pour l'apprentissage des étudiants.
Alors si je peux me permettre, donc le focus group, c'est un focus group qui se déroule tous les mardis de 17h à 19h à la Cité des Associations. C'est un groupe qui est ouvert et pas fermé, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer aux réunions du mardi soir et intégrer donc le travail qu'on est en train de faire dans ces réunions-là. Et pour l'IRTS, c'est un centre de formation qui forme les travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Donc c'est une école qui, comme vous avez dit Yves, qui s'est investie dans ce dispositif du COFOR, qui nous prête leurs locaux, qui vont nous prêter leur centre de documentation pour pouvoir proposer de la documentation sur le rétablissement. Ça peut être des livres, des CD-ROM, ça peut être pas mal de choses. Et donc on travaille avec eux pour, pour les locaux, et pour, c'est là où ça va se passer en fait à la rentrée, quoi. Voilà.
Et du coup, le dernier acteur principal, c'est le public concerné, puisque toutes les personnes concernées par la maladie peuvent venir s'investir dans ce projet COFOR.
Le COFOR Marseille, c'est pas du tout ce que nous, on veut monter. Nous, on part pas d'un appel à projet. Il y avait un appel à projet dans le sens de l'autonomie des malades, de l'autonomie des personnes psychiatrisées, auquel ils ont répondu par un dossier assez fourni sur la base de ce qu'avait développé le mouvement Mars, mouvement pour l'autonomie à Marseille, autour du docteur Vincent Girard, hein, sur la problématique des toxicomanes SDF sur Marseille, le programme Un chez soi d'abord, les nomades célestes, le gène les nomades célestes, le mouvement du rétablissement qu'ils avaient développé autour des problèmes de toxicomanie autorisés par la PHM. Et donc le dossier était quand même assez fourni parce qu'à Marseille, ils avaient déjà accumulé l'expérience, hein, vraiment de plusieurs années, hein, dès pratiquement les années 2005-2006. Hein, c'était assez vieux, hein, puisque le projet Mars est né au début des années 2010 sur la base des nomades célestes. Les nomades célestes, c'est un gène qui se met en place à la fin des années 2000, hein, vers 2005-2006. Et Vincent Girard, qui était psychiatre là-bas, côté PHM, était pleinement autorisé. Il avait même eu une lettre de mission en 2009 de la ministre Roselyne Bachelot sur le développement expérimental à la base du programme Un chez soi d'abord. Le programme Un chez soi d'abord pour le relogement de SDF toxicomanes. Donc il y avait tout ce réseau, donc ils ont pu déposer un projet assez costaud, un dossier, emporter cet appel à projet et donc avoir immédiatement un financement. Or, sur la base d'un financement ARS, et là on va en venir sur les problématiques du financement, alors que l'ARS PACA autorisait des projets novateurs en lien avec le CCOMS à Lille, le centre collaborateur OMS, également leur antenne à Paris, mais plutôt sur le réseau lillois, le réseau centre collaborateur OMS. Donc ils ont pu développer quelque chose de vraiment très sophistiqué. Le COFOR Marseille, c'est vraiment quelque chose de très complet, adossé à l'Institut de travail social d'IRTS de Marseille, pour la formation des travailleurs sociaux, et avec des initiatives dont on n'avait pas connaissance en France.
Avec la notion de recherche participative, c'est-à-dire qu'on n'a pas des chercheurs qui savent et qui vont renseigner à des non-sachants, mais que la recherche s'organise avec tout le monde, avec la participation de tout le monde.
C'est simple, le schéma qu'ils ont mis sur pied, c'est un schéma dans lequel des pairs forment des pairs. Mmh. C'est-à-dire, on utilise ce que les gens qui ont connu le circuit psychiatrique et qui sont débrouillés avec ont accumulé comme connaissances, soit d'eux-mêmes, soit à travers des pairs, des groupes de pairs aidants, ou dans le circuit associatif également, ou dans la militance, ou dans d'autres circuits, de sorte à faire connaître, partager ces connaissances et qu'il y ait un retour dans le sens d'une autonomisation. Alors à partir de là, donc je renvoie à la conf débat qu'on avait fait le 25 mars 2023 avec Aurélie Kinland, psychiatre-chercheur à la PHM, qui avait co-organisé cette initiative, et à ce qu'elle nous avait appris, le COFOR Marseille, ça a été développé essentiellement autour de l'apport d'idées de Céline Letailleur. Céline Letailleur a joué un rôle très important, puis après les polémiques nouées, bon, etc. Alors moi, j'avais participé à une formation en tant que formateur au COFOR Marseille, je pense que ça devait être 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus, sur la question de la personne de confiance. Et c'était à l'époque où il y avait Pauline Renter qui avait formé cet embryon d'association pour les droits des patients, pour lequel il n'y a pas eu de financement. Puis après, elle avait embrayé sur des études pour devenir avocate. Elle est devenue avocate au barreau de Marseille, où elle travaille sur le contrôle le contrôle obligatoire des mesures d'hospitalisation sans consentement et des maintiens d'isolement en contention. Et donc, je m'étais aperçu que ça m'amusait pas mal de gens et que les questions qui étaient posées des personnes concernées, des personnes qui avaient connu la psychiatrie, étaient vraiment intéressantes. La personne de confiance, comment c'était passé. Et là, on voyait que sur la question, on voyait très clairement que sur la question de l'information sur les droits des patients en psychiatrie, vraiment, il y avait un trou noir. Il y a vraiment une problématique. Donc, ils ont monté un schéma très compliqué autour d'un focus group qui se réunit une fois par semaine, des modules de formation qu'ils développent. Mais ce que je veux dire, et c'est là le point essentiel, ils sont partis d'un appel au projet avec d'ores et déjà des financements.
Oui.
Bien. Ensuite, en 2018, un coffre a été développé à Lille, autorisé par le CCOMS, Centre collaborateur OMS EPSL Lille Métropole, avec Jean-Luc Rolland, et la personne qui a succédé à Jean-Luc Rolland dans la direction de ce centre collaborateur. Là encore, c'est institutionnel. Et à Paris, il y a eu un embryon de tentative en 2020, mais sur la base, des personnes se sont engueulées. Il y a eu un conflit entre plusieurs personnes, et plus précisément entre deux personnes, pour obtenir, alors qu'il n'y avait pas de subvention, un poste futur de coordinatrice, coordinateur de ce coffre sur une subvention qui interviendrait éventuellement plusieurs mois après. C'est-à-dire qu'on leur avait dit, autour du laboratoire sur l'autonomisation des patients, du GHU Paris Neurosciences, dirigé à l'époque par Emmanuel Jouet, chercheur, on leur avait dit, lancez une initiative, lancez l'organisation, en cours de route, on recordera et on institutionnalisera. Et là, les deux protagonistes se sont engueulés pour un futur poste et se sont dit, nous, on n'a pas les subventions, ça ne nous intéresse pas, donc le projet... Et c'est comme ça qu'on avait lancé précisément cette émission sur Radio Libertaire L'Entonnoir, tous les mois, de vulgarisation du droit d'internement, avec les conf-débats qu'on a initiés tous les 3-4 mois, pour autant que ça marche. Il y avait des choses qui sont intéressantes qui se sont dites, et ce qu'on a pu voir, c'est que il y a eu des fois ça a marché, d'autres fois ça n'a pas marché, mais les personnes elles-mêmes concernées et dans le circuit de la pérédance, dans l'ensemble, nous ont dit, nous ce qu'on veut c'est un salaire. Carrière, c'est qu'il y ait des fonds. Mmh. Bien. Le problème des fonds en la matière, comme j'ai pu l'échanger dans un échange d'SMS avec Aurélie Kingman, c'est que en la matière, les agences régionales de santé sont à la fois les décideurs de ces projets innovants, l'autorisent ou pas, bien. C'est à la fois les bailleurs de fonds, et c'est en même temps les contrôleurs de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Donc elles tiennent une tutelle qui est une tutelle politique sur ce qui se fait ou sur ce qui ne se fait pas. Au contraire, alors on a là la mainmise centraliste, étatique, jacobine, le jacobinisme français, vous allez savoir ce que c'est, on part de là. Les ARS sont d'abord des agences déléguées du ministère de la Santé, donc du gouvernement, hein, donc de l'exécutif, chargées d'exécuter la politique ministérielle. Certes, elles ont l'autonomie juridique, c'est plus facile ainsi, elles font pare-feu par rapport aux procédures contre l'État, mais en même temps, elles décident par délégation au nom de l'État de ce qui se fait, s'il ne se fait pas en matière de santé et de santé mentale. Or, c'est une tutelle politique. C'est une tutelle politique, à proprement parler, dans le sens où la politique, c'est la gestion des populations. Eh bien, ça, c'est exactement une tutelle politique, et donc on a une censure sur ce qui n'est pas dans les rails gouvernementales et n'est autorisé que ce qui convient à ces messieurs, dames, localement, régionalement. Or, on sait qu'en Ile-de-France, la politique de santé mentale en Ile-de-France, d'abord, est tournée plus en plus vers fondamentale et est tournée sur le GHU par une conscience, est très techno. Très techno. Les tenants, celles et ceux qui tiennent les commissions médicales d'établissement, le courant Boueteux, le courant IDEP, intersyndical de défense de la psychiatrie publique, les malades, c'est des exécutants. C'est nous qui dirigeons. Les malades, s'il y a une autonomie, c'est nous qui les tenons. Donc c'est tout, c'est aussi simple que cela. Et indépendamment de cela, il y a les courants habituels de la psychothérapie institutionnelle. Or, ces courants sont tenants, à un titre ou à un autre, du culte de la folie. Ce que je dis, hein, le culte de la folie, entre guillemets. Hein. Autrement dit, valorisation du délire, valorisation, nous les fous, les folles, on connaît. Et les usagers de la psychiatrie qu'on autorise sont celles et ceux qui se revendiquent de la folie. Qui se revendiquent du droit à la folie.
Et en même temps, dans ce domaine-là, les pratiques analystes, enfin de psychanalystes, tendent à disparaître au profit des TCC, des théories, des techniques
comportementalistes. Alors c'est cette guerre de tranchées qui est très vive sur Paris et la banlieue parisienne, et qui fait d'ailleurs que là où nous pouvons, puisque si tu veux, le courant rétablissement, le courant autour, est quand même s'est développé à partir du courant autorisé comportementaliste. Hein. Oui. Il est lui-même, c'est un courant qui est tenu, le courant partisan du rétablissement, est lui-même tenu par des gens en conflit contre les églises psychanalytiques, les chapelles psychanalytiques. Voilà, oui, d'accord. Oui. Mais il n'en reste pas moins que nous, nos alliances se font bel et bien du côté des chapelles psychanalytiques, parce que c'est là que l'on trouve les tenants anciens et nouveaux actuels d'une antipsychiatrie contemporaine. Et donc, on est habituellement, comme nous, on est tenant du droit des patients, du mise à effet, on est habituellement pris en étau entre Charybde et Scylla, c'est-à-dire une école qu'on combat, l'école fondamentaliste, on la combat. En même temps, moi, je dis que le cognitivisme est très important. Le cognitivisme et le comportementalisme sont très importants en matière de psychiatrie et santé mentale, parce qu'il ne s'agit pas de favoriser chez les gens des détraquements comportementaux et de déclaratifs et autres qui fassent qu'on retrouve tous les 6 mois la personne en HO. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même des problèmes de liberté individuelle. Donc le raccord à la norme, à la vie en société, quand même, c'est standard, hein, d'accord.
C'est un débat qui n'est toujours pas terminé.
Toujours, il ne se terminera jamais, sans doute. On a une alliance précaire, mais qui est ce qu'elle est, avec une école et des écoles de psychiatrie qui sont tenants de la valorisation de la folie. Bien. Oui. Mais en même temps, il s'agit bien d'aller à Paris dans l'implantation et le développement d'une logique de rétablissement dans un sens libérateur, pas dans un sens institutionnel. Or, ce qu'on sait, c'est que sur la politique qui est tenue par l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, nous, on ne passera pas. De façon, moi, à partir du moment où je suis quelque part, même si je suis personne âgée de nos jours, en tant que représentant du courant ancien du groupe Information Asile, je ne suis pas le bon malade de service. Donc c'est très pratique pour ne pas obtenir. Ce n'est pas pratique pour obtenir, c'est pratique pour ne pas obtenir. Bon, donc notre problème, c'est d'initier un centre de formation rétablissement à Paris avec un petit groupe de personnes, de démarrer une dynamique sur la base de cette dynamique, accumuler une expérience pendant plusieurs mois, épaulée par Aurélie Tillemans et d'autres personnes, et sur la base de cette expérience de plusieurs mois, faire un rapport qui corsette, qui formalise un projet, déposer ce projet auprès de financeurs éventuels, ARS et autres, en cherchant d'autres financements que les financements publics. C'est ce qu'avait fait la Maison Perchée, avec des liens très bourgeois, très capitalistes, etc. Mais c'est en effet ce qu'il faut faire. Hein. Et ne pas avoir peur du fait que, non, on n'obtiendra peut-être pas grand-chose, mais ce qu'on obtiendra et ce qu'on fera, ce sera bien nous qui le ferons en autonomie. En autonomie. Donc, je donne connaissance du communiqué qu'on a passé, un peu tardivement, le 13 septembre pour le 28 septembre. Démarrage d'un COFOR, centre de formation et rétablissement à Paris. Alors, peuvent s'inscrire les personnes ayant connu ou connaissant une prise en charge psychiatrique hospitalière avec sectorisation ou en clinique psychiatrique privée, ainsi que les professionnels de la psychiatrie et du droit appliqué à ce champ, partisans du rétablissement et de la déchronicisation des personnes psychiatrisées. Pourquoi cette limitation aux seules personnes ayant connu une hospitalisation en psychiatrie? Parce que ces terrains, et on l'a vu avec le développement de la FNAPSI autorisée il y a 25 ans, ce terrain est trop aisément investi par des personnes, par des professionnels d'abord, qui envoient certains de leurs patients, n'ayant jamais connu l'hospitalisation psychiatrique, n'ayant jamais eu ce malheur de savoir ce que c'est un enfermement, une contrainte aux soins, un abandon dans une institution avec une aggravation et avec en étant au contact avec les horaires institutionnels. Donc qu'au moins on sache ce qu'il en est et qu'au moins on ne soit pas, comment dire, noyé dans des problématiques de simple adaptation à un malaise dans lequel ça n'a jamais été tranché par un enfermement. Alors, je ne dis pas, l'hospitalisation clinique est une expérience. Des gens qui ont été hospitalisés en clinique et qui ont connu cet état d'abandon complet, de je m'en fichage complet qu'on trouve dans les cliniques, même UP, auront eu une connaissance de cela. Tu vois ? Mais je pense, au début de cela, je pense qu'il est préférable de restreindre.
Oui, et puis c'est une manière, une mesure nette, quoi. C'est-à-dire que.
C'est clair.
Parce que, bon.
Oui, alors ainsi donc se termine pour aujourd'hui l'entonnoir. Et donc, le rendez-vous est le suivant. Conférence-débat organisée par le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, samedi 28 septembre à l'AGK, 77 rue de Charonne, sur le projet de création d'un confort à Paris, discussion. Et c'est au métro Alexandre Dumas, Paris 11e. Eh bien, ainsi, donc, comme je le disais, se termine l'entonnoir, et nous vous disons à la semaine prochaine. Et maintenant, nous vous proposons Un rayon de soleil, émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, 89.4 sur Paris et la région parisienne et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.net ou .org, comme vous voulez. Alors aujourd'hui au programme, nous allons aller écouter une conférence enregistrée au CIRA de Marseille, au Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, qui est un organisme qui est très intéressant, qui propose des conférences de manière régulière et qui sert d'archive pour les anars. Voilà. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à Freinet. Voilà. Bonne conférence.
here. I carry a badge. I carry a badge. I carry a badge.
Michel Mula, qui aujourd'hui va nous parler de Célestin Freinet et de sa pédagogie. Donc, savoir d'où venait Célestin Freinet, pourquoi il a créé ce mouvement, donc un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'école moderne. Bon, il y a plusieurs noms, tu nous expliqueras, parce qu'on dit pédagogie Freinet, l'école moderne, en France s'appelle l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, mouvement Freinet. Donc Michel est chargé de mission pour les archives, hein, il est à la retraite, donc il a le temps, il a été enseignant, donc c'est mieux d'être enseignant.